britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Mais comment? Parce que le fait est là, n'est-ce pas? Vous êtes devenue la reine, on a dit la muse de Saint-Germain-des-Prés. Comment êtes-vous devenue cette muse?
En laissant tomber mon manteau dans un escalier.
C'est très étrange.
C'est comme ça, pourtant. On avait découvert un endroit, et un beau jour, il était très tard, il était 4h du matin, et on avait très très faim.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. J'avais prévu au début de novembre de consacrer une émission avant les fêtes de Noël à l'histoire des nuits parisiennes, de l'Ancien Régime jusqu'à nos jours, à partir du beau livre illustré qu'Antoine Debecq, professeur à l'École Normale Supérieure, vient de publier sur ce thème. Je ne pouvais pas prévoir que le drame du Bataclan et les crimes qui y ont été accomplis à l'aveugle, en même temps que dans des cafés ou restaurants du voisinage, allaient donner à ce sujet une actualité sinistre. Dans un article pour Libération, que nous mettrons en ligne sur notre site, Antoine Debecq a écrit « Ce qu'il visait, c'est la nuit à Paris, la nuit aujourd'hui. Ce sont les verres entre amis, les flirts aux terrasses, les soirées aux concerts, les flâneries dans les rues, au moment où la douceur fait entrer dans le week-end nocturne. » Mais, ajoutait-il, les nuits parisiennes sont trop précieuses pour être abandonnées comme une victime laissée pour compte du terrorisme islamiste. Si Paris est entier dans ses nuits, si Paris est une civilisation nocturne, si Paris possède ce bien noctambule d'histoire et d'humanité, cette nuit qui éclaire, alors il faut retourner y faire la fête, s'y amuser et s'y aimer. » Fin de citation. Tel est l'esprit dans lequel je souhaite inscrire nos propos de ce matin afin que, là comme ailleurs, là plus qu'ailleurs peut-être, le passé proche ou lointain puisse servir, parmi notre douleur, de nouveaux élans et peut-être de nouveaux bonheurs partagés.
Un monde merveilleux s'éveille à Paris quand le jour appuie. La lumière éclate et merveille, et c'est un nouveau soir qui luit. Le provincial dans sa campagne, l'étranger revenu chez lui, ont encore le goût du champagne et des belles joies de la nuit. Minuit, minuit à Paris, c'est l'heure qui nous séduit. L'heure où chacun se dit adieu les ennuis, adieu les soucis. Minuit, minuit à Paris, c'est dans un rythme minuit. Tout ce qui éblouit les yeux et l'esprit, les rires, les chansons de toutes les voix de nuit. Et c'est la vie qui se poursuit. Midnight, une paresse. Metternacht, une paresse. Minoche, une paresse. La boîte russe nostalgique, le chant des balalaïkas, souvenirs joyeux ou tragiques, chansons d'amour qu'on n'oublie pas. Et voilà la boîte qui peine, c'est toute la voix des rumbas, c'est une évocation soudaine des Antilles et de Panama. Minuit, minuit à Paris, c'est l'heure qui nous séduit. l'heure où chacun se dit adieu les ennuis, adieu les soucis. Oui, minuit, minuit, à Paris, c'est dans un rythme inouï. Tout ce qui éblouit les yeux et l'esprit, les rires, les chansons de toutes les boîtes de nuit. Et c'est la vie qui se poursuit, c'est minuit à Paris.
Antoine Debecq, bonjour.
Bonjour.
Je vous ai offert une chanson qui s'intitule « Minuit à Paris ». Cela ne vous surprendra pas à l'orée de notre conversation. Une chanson de 1938 qui était écrite et interprétée par Jean Tranchant. Il me semble qu'on y trouve déjà quelques-uns des thèmes que nous allons avoir à manier, l'exotisme, Antilles et Panama, la rupture et en même temps la continuité par rapport à la vie quotidienne, par rapport au jour, non?
Oui, et puis la traduction de Minuit à Paris dans toutes les langues, la réputation mondiale comme ça de Paris où l'on vient pour vivre la nuit de partout absolument dans le monde. Oui.
Au XVIIIe siècle, les fêtes parisiennes qui étaient éclatantes étaient peut-être moins internationales. Ce qu'on y trouve à vous lire, c'est au fond une rencontre entre le désir des pouvoirs publics, de la monarchie, d'organiser ces fêtes, d'en être maître. Et en même temps, les pulsions constantes du peuple pour échapper à ce carcan.
C'est vrai que le pouvoir sur la nuit est un pouvoir important, c'est un pouvoir symbolique essentiel. C'est le pouvoir tout simplement d'éclairer la nuit. Et cela, c'est le roi qui le maîtrise. C'est le roi qui détermine, par exemple, de façon très très précise à travers sa hiérarchie policière, le nombre de lanternes qui vont être allumées dans le Paris du XVIIe puis du XVIIIe siècle, de plus en plus nombreuses ces lanternes.
Oui, elles sont nombreuses et elles éclairent à 60 mètres avec du suif.
Oui, c'est une sorte de spécialité parisienne, la qualité de l'éclairage nocturne. C'est quelque chose qui très vite va signaler Paris et le nom de la capitale française, la ville des Lumières, c'est à la fois la ville évidemment des philosophes, mais c'est d'abord la ville éclairée la nuit. Et donc le roi possède ce pouvoir de faire le jour dans la nuit. Il va en user en organisant toute une série de fêtes nocturnes.
Vous en dénombrez 180 au long du XVIIIe siècle.
Exactement, c'est-à-dire que ces fêtes vont rythmer la chronique monarchique dès qu'il y a un événement petit ou grand, comme une naissance, un baptême, un mariage ou un traité, une victoire. Le roi donne la fête aux Parisiens. Il leur offre cette fête en organisant des feux d'artifice, par exemple, qui sont le symbole même de sa maîtrise de la lumière, de sa maîtrise du feu. D'autre part, en nourrissant, en abreuvant les Parisiens, des fontaines à vin, des banquets magnifiques, dans certains coins de certains quartiers de Paris, le peuple s'amuse au nom du roi et dans la reconnaissance, évidemment, du roi. Donc ce modèle festif est un modèle important qui est une des spécificités du pouvoir royal, du pouvoir monarchique des Bourbons. Louis XV sera très prodigue en ce type de fête. Il va y avoir à la fin du XVIIIe siècle toute une série de critiques contre ce type de fête, à la fois parce qu'elles sont ordonnancées pour la gloire du roi et d'autre part parce qu'elles sont réputées, et non seulement réputées, mais elles sont effectivement assez dangereuses. Il y a ces attroupements de population au cœur de Paris sont parfois extrêmement meurtriers. Hein.
132 spectateurs, rue Royale, tués lors du feu d'artifice qui a été tiré en l'honneur du mariage du dauphin.
Exactement, en mai 1770. C'est une date importante, à la fois parce que c'est le mariage du futur Louis XVI avec Marie-Antoinette, mais c'est aussi une date importante parce qu'elle marque ce sentiment de défiance vis-à-vis de ce qui est un des pouvoirs du roi, qui est le pouvoir de divertir. Les philosophes vont s'engouffrer dans cette brèche et dénoncer ce type de fêtes. Ces fêtes qui sont comparées dès lors à une sorte d'orgie où le peuple s'enivre, où le peuple perd le contrôle de lui-même et finit par se mettre en danger par la fête. Alors que la fête philosophique, elle est rêvée autrement, elle est rêvée dans cette idée que le peuple va pouvoir se contempler lui-même dans son harmonie, dans sa force, dans sa puissance, c'est-à-dire le contraire de son enivrement. Et donc il y a toute une critique de la fête publique à la fin du XVIIIe, qui est une des antiennes des philosophes, de l'encyclopédie. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment de façon très très importante à ce moment-là.
Ambivalence de l'attitude des encyclopédistes envers le peuple. Le désir de l'émanciper, en même temps la méfiance sur d'éventuelles conséquences incontrôlées de cette émancipation.
Voilà, la méfiance alors, vis-à-vis des excès du peuple.
Il y a un texte qui me paraît significatif que vous donnez dans votre livre, Antoine de Beck, de Louis de Cahuzac, qui est historien et librettiste de Rameau, et qui écrit « Dans les grandes circonstances, la joie des princes, des peuples, des particuliers même, pourrait être exprimée d'une façon plus noble que par quelques cavalcades monotones, par de tristes fagots, embrasés en cérémonie dans des places publiques et devant les maisons des particuliers. L'invention grossière de tous ces amphithéâtres de viandes entassées dans les lieux les plus apparents, de ces dégoûtantes fontaines de vin, les voilà vos fontaines de vin que vous évoquez, dans les coins des rues, ou enfin de ces mascarades déplaisantes qui tiennent lieu de danse, infectent les rues d'une grande ville dont l'extrême propreté dans ces moments heureux devrait être l'une des plus agréables démonstrations de l'allégresse publique.
Un texte qui est très très marquant et qui illustre très bien la critique des fêtes et la contre-proposition qui va être avancée par les philosophes. C'est une double contre-proposition, c'est à la fois une proposition d'autres fêtes, qui sont plutôt des fêtes diurnes, il faut bien le dire. Hein. On se méfie de la nuit comme espace de subversion, de folie, de dérèglement des comportements. L'autre contre-proposition, c'est ce qu'on pourrait appeler une privatisation de la nuit parisienne. C'est-à-dire que la nuit va être prise en charge par des particuliers, soit dans les salons. Ce phénomène est bien connu. Il a été revisité récemment. On parle souvent des salons comme le lieu philosophique, le lieu de l'opposition politique quasiment, où se forme une opinion publique contre le pouvoir monarchique et contre le pouvoir des privilèges. Le salon, c'est aussi un endroit où on s'amuse et c'est aussi un endroit festif où l'on joue, où l'on récite des poèmes, où l'on donne des pièces de théâtre, des scénettes théâtrales, mais c'est aussi un lieu où on mange, c'est un lieu où on fait bonne chère, c'est un lieu où on danse parfois. Donc il y a une vie nocturne qui se met en place dans les salons, qui va être de plus en plus importante. On y joue en société. C'est également que la nuit va être prise en charge par des entrepreneurs de la fête. Les plus célèbres sont les frères Ruggieri, qui sont à la fois des artificiers célèbres dans l'Europe entière et qui vont ouvrir des lieux spécifiquement dédiés à la fête. Par exemple, le Colisée en 1771, qui va être le premier, on appelle ça des Vauxhall ou des Tivoli.
Influence anglaise.
Voilà, influence anglaise. Ils ont ouvert un quart de siècle auparavant à Londres et ils vont se développer à Paris et y trouver en quelque sorte leur terreau, leur patrie à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Alors qu'est-ce que c'est que le Colisée ? C'est un lieu clos, tout à fait sécurisé, où les premiers noctambules vont pouvoir se réunir pour assister à un concert, pour danser, pour discuter, pour boire et pour déguster des mets dans une ambiance qui est une ambiance assez champêtre. On reconstitue comme ça une nature idéale.
Des jardins.
Voilà, on se promène. Oui, tout à fait,
anglaise.
Absolument.
Il y a le Ranelagh, que je salue avec une ferveur spécifique, puisque la rue du Ranelagh est une des deux rues qui jouxte notre chère maison de Radio France.
Tous ces lieux vont ouvrir entre la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle et vont accueillir comme ça la vie nocturne parisienne à ce moment-là qui échappe de façon très nette à l'emprise du roi. À chaque fois que l'on parle de ces nuits, on parle évidemment de quelque chose qui est frivole, de quelque chose qui est sur le mode du divertissement, mais c'est aussi un enjeu politique. Il y a toujours cela qui est derrière. C'est assez clairement, aussi bien dans les salons que dans les Tivoli, une manière de s'émanciper de la fête royale.
Il surgit une quantité de cabarets dont le plus célèbre peut-être est celui de Ramponneau qui accueille tous les fêtards.
Ramponneau, c'est là où on boit. Il y a ce vin nouveau, un peu aigre, un peu assez alcoolisé, comme ça, qui est versé à foison et qui est surtout très accessible puisqu'on est à la Courtille. Donc, on est de l'autre côté de la barrière de Paris, de la barrière d'Octroi. Et donc, c'est un vin qu'on peut aller boire parce que Ramponneau le vend peu cher. Et donc, il y a là une autre des caractéristiques de la nuit parisienne, c'est le mélange.
Ressuscitons. La guinguette de Ramponneau, c'est le titre d'une chanson de Collé qui remonte à 1760 et qui est ici interprétée par Philippe Meyer. C'est une occasion pour moi de rendre hommage à ce confrère, à ce collègue du dimanche matin. Mais c'est un monde assez différent de l'esprit public, vous savez, l'émission qu'il organise depuis si longtemps.
Chantons l'illustre Ramponneau, dont tout Paris raffole. On a chez lui du vin nouveau, les filles qu'on cajole. C'est là que Michaud renverse Isabeau sur le cul d'un tonneau. On danse au son du tambourin, on fait la cabriole. On se bat, on se prend au crin, on se frotte, on se frôle. Puis on en revient au vin qui soutient, à Catin qui vous tient. Lorsque l'on est là de Catin, on embrasse Nicole, qu'on abandonne le matin pour Suzon qu'on bricole, ou pour Jeanneton, ou pour Margoton, ou pour Mamselle Tonton. Le vin fait revivre l'amour et lui rend la parole. Le vin a soif et tour à tour, on boit et l'on s'accole. Couché ou debout, ici, là, partout, sans crainte d'être sous. Existe et zeste, point de chagrin, on y rigole avec du vin. Existe et zeste, point de chagrin, on y rigole avec du vin.
On est frappé en considérant, comme nous le faisons ce matin, Antoine de Bec, en considérant les nuits parisiennes, par le caractère mobile de la géographie de ces rencontres nocturnes. Suivant les moments, nous allons voir, il y a le Palais Royal, et il y aura Montmartre, il y aura Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, etc. Cette fin du XVIIIe siècle voit le triomphe du Palais Royal.
Le lieu nocturne par excellence qui s'ouvre sous l'influence du duc d'Orléans, c'est pour ça d'ailleurs que c'est un lieu si particulier. C'est un ancien palais rénové, restauré par la famille d'Orléans et qui est mis sous la coupe, sous la direction de cette famille. Et donc la police royale, par exemple, n'est pas admise dans cet espace. Donc c'est un lieu de relative liberté. C'est là que vont se retrouver tous les éléments de la nuit, le jeu, les tripots, le commerce clandestin de tous les libelles et de tous les ouvrages, y compris souvent pornographiques. C'est le haut lieu de la prostitution. Et puis le lieu de la mode, le lieu où l'on achète les derniers habits en vogue. Le lieu aussi où on se promène dans les galeries, hein, la géographie, la topographie du Palais Royal est extrêmement importante, et où aussi vont affluer les divertissements à la mode, Curtius, le cabinet des figures de cire, des marionnettes, tout un jeu d'illusions optiques aussi qui sont là.
Il faut citer naturellement Restif de la Bretonne, le grand Restif de la Bretonne.
Le grand Restif de la Bretonne, des nuits de Paris.
Citation parmi d'autres possibles, il écrit « Minuit sonnait ». Il y avait dans le jardin et sous les galeries une foule immense, mais choisie. Je ne saurais vous dire combien j'ai vu d'aventurettes hier. Qui n'a pas vu attentivement le Palais Royal ne saurait se flatter de connaître le cœur humain.
Quand on y va aujourd'hui, évidemment, cette atmosphère-là a bien changé. C'est un lieu extrêmement important qui est peut-être le premier cœur noctambule de Paris.
C'est d'ailleurs là que Camille Desmoulins, dans un geste fameux, au moment où le roi a renvoyé Necker, juste avant la prise de la Bastille, vient enflammer, monter sur une chaise, enflammer les cœurs des Parisiens qui l'entourent.
On est là au cœur de ce qu'on pourrait appeler une sorte de forum, d'agora parisienne.
Hein, un peu Hyde Park à Londres.
Oui, qui est un lieu à la fois de plaisir et aussi un lieu éminemment politique. Et c'est vrai que c'est aussi le lieu qui est au cœur de la mobilisation révolutionnaire des Parisiens. Et le Palais Royal va être parcouru comme ça par les événements révolutionnaires. Et toute une série d'événements nocturnes vont s'y dérouler, puisque c'est aussi le grand lieu des cafés. Hein. C'est là où... au café de Valois, au café de Chartres, on parle une partie de la nuit, notamment de politique.
Les cabinets de lecture sont également
les
nombreux.
Les cabinets de lecture, oui, c'est vraiment le lieu de la rencontre, de la discussion, du plaisir. C'est sûr que les révolutionnaires vont être, par rapport à ce lieu du Palais Royal et par rapport à la nuit en général, assez ambivalents. C'est-à-dire que...
Comme les encyclopédistes d'ailleurs.
Absolument. Ils se méfient de la nuit, ils se méfient aussi du Palais Royal. La nuit est propice, évidemment, au complot, à tout ce qui serait les secrets, les masques, le fait de fomenter des séditions. Et donc,
tout ce qui échappe à la transparence du peuple par rapport à lui-même. À plus de carnaval, plus de bals masqués en principe.
Les carnavals et les bals masqués sont interdits par arrêtés municipaux et réprimés de façon extrêmement sévère. Ce qui est au contraire promu, c'est la fête diurne, c'est le rassemblement du peuple, par exemple, lors de la fête de la Fédération.
Le 14 juillet 1790,
qui est l'apothéose festive de la Révolution, qui est une fête absolument absolument de la transparence. Le peuple se contemple lui-même dans sa gloire.
D'ailleurs, je rappelle que lorsque les républicains de la Troisième République ont choisi le 14 juillet comme fête nationale, ils entendaient à la fois évoquer le 14 juillet 1789 et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, on l'a souvent oublié.
Les révolutionnaires avaient également conscience que cette fête philosophique, cette fête politique n'était pas suffisante et qu'il fallait lui adjoindre une autre fête qui était une fête plus d'essence, une fête où le peuple allait se divertir, allait danser. Et donc très vite, cette idée d'adjoindre une seconde fête nocturne, mais qui serait évidemment politisée, qui serait plus contrôlée, mise sous l'autorité des forces révolutionnaires, la fête de la Fédération diurne est poursuivie la nuit venue par une fête nocturne de bal. Il y a énormément de lieux parisiens qui ouvrent des bals cette nuit-là à Paris. On va danser pendant même plusieurs nuits de suite pour célébrer le nouveau régime. Et donc, le pouvoir révolutionnaire s'est très bien joué sur ces deux motivations, ces deux mobilisations. La mobilisation des esprits, la mobilisation politique qui est celle du jour, et puis la mobilisation du plaisir, même s'il est encadré, même s'il est orienté vers le pouvoir révolutionnaire. Il y a cette idée, et la Révolution reprend en quelque sorte le rôle presque monarchique de divertir le peuple. Et c'est quelque chose qui est présent sous la Révolution.
Cela est spécialement patent, par exemple, lors d'une fête oubliée, qui est celle du 18 septembre 1791, où il s'agit de célébrer la nouvelle Constitution et où Paris est traversé par le cortège, je cite, de la loi et de la raison. Rencontre entre la loi et la fête qui implique toujours néanmoins quelque chose d'inattendu, d'improvisé. Et c'est cette rencontre-là que la Révolution s'efforce de maîtriser.
Les révolutionnaires ont ce souci de tenir ensemble ces deux pulsions qui pourraient paraître contradictoires, celle du jour et de la nuit, celle de la raison et celle de la fête. Et tout cortège de raison est doublé souvent d'un cortège beaucoup plus bachique. Par exemple, la fête de l'ouverture des barrières, au même moment que la fête pour la Constitution.
Les barrières, c'est-à-dire l'octroi.
C'est-à-dire l'octroi, c'est-à-dire que l'abolition des privilèges va entraîner l'abolition de l'octroi qui clôturait Paris. Et pour fêter cela, a lieu un grand cortège qui est un cortège joyeux parce que ce que veut dire l'abolition des barrières, c'est un vin moins cher. Et donc, voilà, il s'agit de fêter cela. C'est un cortège quasi carnavalesque qui se met en place sous les autorités révolutionnaires, mais en même temps, on y célèbre une sorte de réunion de la révolution et du vin nouveau, et du vin joyeux. Les révolutionnaires ont compris qu'il y avait nécessité d'organiser ce type de fête.
Mais avec l'obsession de brider cette spontanéité, je vois que Marat écrit « Le carnaval est une fête bonne pour les peuples esclaves ».
On retrouve la critique des philosophes contre le peuple aliéné, le peuple qui est soumis au pouvoir royal par le divertissement, par l'enivrement, le peuple qui ne s'appartient plus. C'est quelque chose qui est une grande terreur, une grande crainte des révolutionnaires. Il s'agit en quelque sorte de rendre le peuple à lui-même, c'est-à-dire à sa propre contemplation, mais aussi à son propre amusement en polissant cet amusement, en lui donnant une vocation utile, en l'orientant entièrement vers la mobilisation révolutionnaire.
Il y a un moment où cela est moins contrôlé, moins orienté, c'est après la grande tension de la grande terreur, lorsque survient le directoire. Les frères Goncourt ont publié un livre consacré à la société à l'époque du directoire, où ils montrent bien tout ce monde de ceux qu'on a appelé les incroyables, les incroyables, tous ceux qui organisaient des bals morbides, où on avait sur son col la trace de la guillotine, une espèce de soulagement qui prend des formes à la fois inopinées, surprenantes, non contrôlées, et en violent contraste avec ce refus de la fête antérieure.
C'est le bal à la victime, le danseur mimant comme ça la tête qui tombe en l'inclinant brusquement, une sorte d'exutoire, de défoulement post-terreur qui sont importantes parce qu'elles mettent en place un nouveau régime festif qui est celui d'une jeunesse noctambule, qui naît à Paris à ce moment-là, qui va trouver dans ses fêtes directoriales à la fois un exutoire à sa peur, à la grande peur qu'elle a pu ressentir pendant la terreur, pendant la révolution. Une nouvelle société de la nuit se met en place avec ces incroyables et ces merveilleuses. une façon de s'habiller hein, qui est toute en ornementation, tout en excès de frivolité hein, par rapport à la vertu des révolutionnaires.
Ce sont déjà les dandys des années 1830.
Absolument, les fashionables, les dandys qui naissent à ce moment-là, dans ces années thermidoriennes, qui sont très importantes pour la fête.
Une ambiance que les frères Goncourt ont très bien saisie, puisqu'ils écrivent « La France danse ». Elle danse depuis Thermidor, la chute de Robespierre. Elle danse depuis Thermidor, elle danse comme elle chantait autrefois. Elle danse pour se venger, elle danse pour oublier. Et le riche et le pauvre, et l'artisan et le patron, et la bonne compagnie et la mauvaise, tous se démènent du meilleur de leurs jambes dans cette bacchanale épidermique qui court 644 balles. Donc à la fois une élite qui veut s'affirmer, et puis une explosion de libération de l'esprit populaire.
On retrouve cette dimension festive qui avait été évidemment contrainte sous la Révolution où d'autres urgences occupaient la scène publique, la scène politique. Le Paris noctambule se met véritablement en place à ce moment-là. Dans ces dernières années du XVIIIe siècle et premières années du XIXe, à travers ces lieux, ces bals, ces salons, ces espaces où ces dandys, ces muscadins vont frayer avec une élite du tout Paris. Hein, le tout Paris s'installe dans les salons et va régenter la nuit parisienne. C'est quelque chose qui est très important et qui s'accompagne d'ailleurs d'un certain nombre de signes. Hein. C'est le grand moment, par exemple, des guides du Paris des plaisirs.
Qui accompagnent les étrangers, les falots, ça s'appelle les falots.
Alors, les métier, falots,
un peu comme dans les pays arabes aujourd'hui, les guides qui viennent vous proposer de vous promener.
Ils éclairent, c'est-à-dire qu'ils se promènent avec une petite lanterne et dans un Paris qui est largement dans l'ombre la nuit, ils permettent aux premiers noctambules de passer d'un lieu festif à un autre, comme ça, en sécurité, éclairés par cette petite lanterne portative. Les falots, avec les guides parisiens, ces petits livres qui donnent les bonnes adresses, ces calendriers des plaisirs, hein, comme on les appelle, sont les premiers signes de cette naissance d'une société nocturne autonome hein, qui prend de plus en plus d'importance jusqu'à finir par presque devenir l'identité de Paris dans les premières années du 19e siècle. Hein. Paris qui était réputé pour la ville des philosophes, ensuite la ville des révolutionnaires, la ville de 1789, va devenir dans les années 1820-1830 cette ville de la vie nocturne, hein, cette ville lumière.
Passons plusieurs décennies, presque un demi-siècle, et retrouvons-nous au temps de la monarchie de Juillet, les régimes antérieurs étant peu favorables à la liberté, à l'improvisation des fêtes populaires. C'est le temps où le palais royal s'étant éteint, les boulevards offrent désormais les nouvelles scènes nocturnes pour les Parisiens et les très nombreux étrangers. Un journaliste de 1844 écrit « Pour un étranger qui marche au hasard, sans amis et sans guide, les boulevards ressemblent à un miroir immense qui tournoie dans la lumière ». C'est une gerbe de feu éblouissante qu'il faut s'habituer à contempler en face, à la manière des aiglons quand ils regardent le soleil. Et j'ajoute une autre citation qui est due à Heine, le grand poète allemand, qui écrit vers le même temps « Quand Dieu le Père veut s'amuser un brin, il ouvre une fenêtre de son palais céleste et il regarde les grands boulevards ».
On est devant le nouvel espace de la modernité nocturne de Paris. Ces boulevards qui ont été ouverts entre la fin du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle, ils sont un espace absolument spécifique dans Paris, à peu près une trentaine de mètres de large, comme ça, une voie aménagée hein, sur le pourtour du Paris ancien, et qui vont accueillir tous ces espaces du divertissement, des galeries, des passages. C'est le moment où les passages parisiens sont élaborés.
Cher à Walter Benjamin, récemment.
Qui en faisait justement le symbole de la modernité, c'est-à-dire ce lieu kaléidoscopique, ce lieu où tout se mêle, où éclairé par la lumière des lampadaires, qui est le lieu où on va trouver aussi bien le théâtre, les grands cafés, Frascati par exemple, ce lieu où on va déguster des glaces jusqu'au cœur de la nuit.
Tortoni
aussi. Enfin,
le glacier italien triomphe.
Voilà. Et c'est aussi un lieu où on marche, on retrouve les premiers flâneurs. Hein, le flâneur de Paris naît à ce moment-là, celui qui marche dans la ville et souvent dans la nuit, à la recherche à la fois d'un Paris qui est en train de disparaître, hein, le vieux Paris, la nostalgie du vieux Paris naît aussi à ce moment-là, où la prostitution va aussi jouer un rôle majeur, c'est-à-dire que c'est aussi le Paris des lorettes, le Paris de toutes ces femmes faciles, ces cocottes qui guettent le client, qui guettent l'aventure qu'il peut leur rapporter gros. Donc on est là devant un Paris qui est à la fois extrêmement mêlé, puisque socialement, toutes les classes de la population peuvent circuler sur les boulevards. C'est en même temps la vitrine bourgeoise par excellence.
Et c'est déjà aussi le lieu des commerces coûteux.
Les vitrines de Paris sont célèbres dans le monde entier pour être éclairées toute la nuit. Et donc on peut y voir tous les produits qui brillent tout au long des heures sombres.
Et dans le même temps, comme il advient toujours, les fêtes de la nuit traduisent aussi une hiérarchie sociale et la potentialité d'affrontement. Je voudrais évoquer la fameuse fête chez le duc de Montpensier que dans Chose vue évoque Victor Hugo. C'est une fête qui a été donnée le 6 juillet 1847, donc juste avant la révolution de février. Victor Hugo écrit, en évoquant le fait que les uniformes chamarrés, les très belles dames, sont arrivées en carrosse chez le duc au bois de Vincennes et qu'il y avait derrière des barrières, deux ou trois rangs de Parisiens qui regardaient avec un mélange d'envie et de hargne. À chaque instant, cette foule jetait à ces passants brodés et chamarrés dans leurs carrosses des paroles hargneuses et sombres. C'était comme un nuage de haine autour de cet éblouissement d'un moment. Il ajoutait « Ceci est plein de périls. Quand la foule regarde les riches avec ces yeux-là, ce ne sont pas des pensées qu'il y a dans les cerveaux, ce sont des événements. »
Paris nocturne est ce lieu à la fois du mélange et de la hiérarchie et du cloisonnement. Et on va trouver ces deux types de lieux, ces deux types de pulsions, en quelque sorte, qui se croisent sans cesse. Vous avez des lieux qui sont directement dédiés à l'amusement bourgeois. C'est par exemple l'ouverture de toute une série de bals très fameux, notamment le bal Mabille près des Champs-Élysées, hein, extrêmement célèbre à la fois parce que on y danse notamment la polka et où va s'inventer le cancan, hein, mais aussi parce que c'est un lieu qui a un éclairage absolument merveilleux, à la fois très très lumineux, presque immaculé, et en même temps qui se décline dans une multitude de formes, de couleurs, et donc le bal Mabille va être très 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 célèbre à ce moment-là, au milieu du 19e siècle.
Sur le bal Mabille, le regard de Gustave Flaubert dans l'éducation sentimentale, qui paraît en 1869 et qui correspond bien à cette période. C'est un extrait qui a été lu sur France Culture le 30 novembre 1984.
Une sorte de toiture chinoise abritait l'estrade où jouaient les musiciens. Le sol autour était couvert d'asphalte et des lanternes vénitiennes, accrochées à des poteaux, formaient de loin sur les quadrilles une couronne de feux multicolores. Des étudiants promenaient leurs maîtresses. Des commis en nouveauté se pavanaient une canne entre les doigts. De vieux célibataires caressaient avec un peigne leur barbe teinte. Il y avait des Anglais, des Russes, des gens de l'Amérique du Sud, trois orientaux en tarbouche. Des lorettes, des grisettes et des filles étaient venues là, espérant trouver un protecteur, un amoureux, une pièce d'or, ou simplement pour le plaisir de la danse.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
On est là à cheval entre la monarchie de Juillet et le Second Empire. Qu'est-ce qu'on a appelé exactement la fête impériale à propos du monde de Napoléon III ?
La fête impériale, ça a une signification double. C'est à la fois pour ceux qui ont critiqué le plus sévèrement le Second Empire et Napoléon III, c'est une forme de décadence, la fête impériale. C'est ce moment la France se serait un peu comme oubliée, hein, pour se divertir, pour construire une société que certains ont même comparée à un bordel, une sorte d'immense bordel du monde. C'est ça aussi la fête impériale. Mais c'est aussi la volonté qui est très explicite chez Napoléon III d'ordonner ce qui pouvait être la fête noctambule parisienne, hein, de lui donner, comme beaucoup de régimes autoritaires et en même temps qui voulaient le bien de ses sujets, de ses citoyens.
On revient à l'ancien régime, faire tomber le plaisir d'en haut et l'organiser.
Absolument, faire tomber le plaisir d'en haut et l'organiser, c'est une très bonne définition de la fête impériale. Alors il s'agit de quoi ? Il s'agit d'éviter les débordements qui ont pu avoir lieu auparavant. Par exemple, le carnaval qui est ce grand moment d'excentricité festive nocturne comme ça du milieu du 19e siècle,
où la responsabilité de chacun peut se dissimuler derrière le masque.
Absolument, où tout est possible, où la société peut être à tout moment en quelque sorte subvertie. Le carnaval va être très strictement contrôlé, on peut pas interdire le carnaval puisque ça fait partie en quelque sorte de la tradition parisienne. Et celui qui va être chargé de mettre en musique la fête impériale, c'est Isaac Strauss, qui est par ailleurs l'arrière-grand-père de Claude Lévi-Strauss.
Ça surprendra peut-être. D'ailleurs, Emmanuel Loyer, dans sa belle biographie de Claude Lévi-Strauss qui vient de paraître, ne manque pas d'évoquer ce caractère étrangement dynastique.
Donc il y a là une volonté de mettre la main sur la fête en l'organisant, en lui proposant des règles. Le cancan, par exemple, va être sévèrement proscrit aussi des fêtes officielles. Et en même temps, il y a cette promotion d'un divertissement officiel et ne peut rencontrer qu'un certain nombre de limites. Et évidemment, la limite la plus visible, c'est la façon dont ceux qui participent de cette fête impériale se moquent souvent ouvertement de cette prétention à tout régenter, notamment Offenbach, qui va être un petit peu à la fois au cœur de la fête impériale et en même temps son premier pamphlétaire, son premier moqueur.
Mais c'est curieux, au fond, les plaisirs de la nuit vus par Offenbach et par son immense talent, même son génie, sont à la fois sublimés et moqués. Et cela apparaît par exemple dans l'œuvre immortelle qu'est La vie parisienne, dont je ne pouvais pas manquer, Antoine Debecq, de vous donner un extrait, puisque nous consacrons cette émission à l'histoire des nuits parisiennes. Écoutez donc l'arrivée du baron de Gondremac, le baron suédois, avec sa femme, la baronne, qui viennent à Paris pour un temps trop bref à leurs yeux, mais qu'ils vont consacrer très largement au plaisir nocturne. Et c'est le jeune Raoul de Gardefeu qui va leur servir de falot, comme on dirait, mais un falot très intéressé par le désir de séduire la baronne, qui va leur servir de falot, comme on disait au XVIIIe siècle, qui leur donne la réplique. Écoutons le baron, la baronne et le jeune Raoul de Gardefeu.
Moi je voudrais voir les théâtres, pas ceux où l'on s'embête, mais ceux où des actrices folâtres offrent au regard mille attraits. Soit monsieur, nous irons là, et vous verrez tout cela. Et quoi vraiment, nous irons là, oui, vous verrez tout cela.
Je veux moi dans la capitale, voir les divas qui font fureur, voir la Patti, Dodo Pasquale et Teresa dans le sapeur.
Madame, oui, nous irons là et vous verrez tout cela.
Et quoi vraiment ? Nous irons là ?
Oui, vous verrez tout cela.
Vous verrez tout cela. Vous verrez tout cela. Et quoi vraiment ? Vous y verrez.
Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout.
Vous serez notre guide dans la ville splendide et nous irons partout, nous visiterons tout.
Ah, je serai votre guide. Ah,
je serai votre guide.
Vous serez notre guide.
Je serai votre guide dans la ville splendide, et nous irons partout, nous visiterons tout.
Je serai votre guide dans la ville splendide, oui, et nous visiterons tout. Je serai votre guide dans la ville splendide, nous irons partout, partout, partout.
J'ai choisi Antoine Debecq pour donner cet extrait de La vie parisienne d'Offenbach, l'interprétation de la compagnie Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, qui avait beaucoup marqué, une interprétation de 1959. On reconnaît la voix de Pierre Bertin, de Madeleine Renaud et aussi de Jean de Sailly. C'est tout un monde qui ressurgit là.
Tout un monde qui ressurgit et qui va disparaître en partie avec la fin de l'Empire, hein, qui marque une césure et en même temps, cette volonté de s'amuser, cette fête impériale, finalement, beaucoup de choses vont la prolonger sous la Troisième République, hein, qui peut être considérée comme l'apogée de la nuit parisienne.
Hein, symboliquement, voilà. L'opéra de Gardi n'est achevé que sous la Troisième République commençante.
Par exemple, où le cancan qui naît sous le Second Empire va se développer de façon... pour devenir le symbole même de la civilisation nocturne de la belle époque.
Hein. French cancan, toujours la formule anglaise, anglo-saxonne, pour définir quelque chose qui, aux yeux précisément des étrangers, apparaît comme tellement typiquement français.
Alors le cancan, c'est assez passionnant de voir comment ça naît, comment ça meurt, comment ça renaît. Et effectivement, c'est cette danse, ce chahut, c'est un chahut à l'origine, on appelle ça le cavalier seul, qui est dansé plutôt par des soldats au milieu du 19e siècle, qui va être peu à peu pris en charge, en main par les femmes, notamment sous le Second Empire, par un certain nombre de célèbres cancaneuses, comme la Pomarée, par exemple. Peu à peu, le cancan va obéir à toute une série de règles, de figures, hein, codées, extrêmement codées, étant à la fois un espace de voyeurisme, hein, extrêmement grivois, où tout d'un coup les dessous féminins sont visibles, et en même temps, devenant presque un sport, hein, où les danseuses, les cancaneuses sont comme des athlètes de haut niveau avec un entraînement extrêmement précis, extrêmement important. Et donc, des lieux vont se spécialiser dans la danse du cancan, aussi bien les Folies Bergères que, bien sûr, le Moulin Rouge, hein, qui ouvre à la fin du 19e siècle et qui est peut-être le premier symbole de cette nuit absolue qu'est la nuit 1900. Le cancan disparaît quasiment avec la Première Guerre mondiale, qui est un moment où la fête, évidemment, ne bat plus son plein et va être comme réinventée par Hollywood.
Puis, il y a cet érotisme que vous évoquez. Vous donnez une photo dans votre livre de Nini Pattenlaire. Alors, ça, c'est en pleine page. Vous nous donnez une pleine page, oui, de Nini Pattenlaire.
Il faut donner cette dimension. C'est le fameux grand écart de Nini Pattenlaire. La cathédrale, le grand écart, toutes ces figures fameuses du cancan qui attirent, là encore, du monde entier, hein, des foules qui viennent admirer cette spécialité parisienne des petites femmes de Paris.
Les Goncourt, toujours faussement pudiques, tout en étant assez débauché, les Goncourt parlent, en évoquant l'arrivée de toutes les troupes étrangères après la chute de l'Empire, parlent du 1815, du phallus. Et Zola parle de Paris comme une alcôve colossale.
C'est vrai que Paris est au cœur d'un tourisme nocturne qui est aussi un tourisme sexuel, il faut le dire comme cela est.
Il faut le dire.
Des tournées même s'organisent qui passent aussi bien par les bordels les plus fameux du moment que par ces lieux qui sont les emblèmes de la fête, que sont le Moulin Rouge, l'Alhambra, le Bataclan, dont on parlait malheureusement au début de cette émission.
Le Bataclan, on peut rappeler que l'origine du mot est due à Offenbach.
Le Bataclan ouvre dès 1864. Hein. C'est un lieu qui, à la fois, fait référence à cette opérette, qui est écrit à l'époque comme trois onomatopées. Hein. Bataclan, qui signifie aussi le fait de faire le plus de bruit possible.
Quel est le thème de cette opérette?
Le thème de cette opérette, c'est justement cela, c'est l'idée de sonner, de résonner le plus fortement possible. Et le Bataclan va se spécialiser en quelque sorte dans cela. C'est par exemple là où on va inventer le bigophone. Le bigophone, cet instrument avant, extrêmement impressionnant, qui est tellement puissant qu'il est quasiment inécoutable. Et donc le Bataclan va se spécialiser dans les tours de chant. C'est un musical. Les musicals naissent à Paris à ce moment-là aussi, à la fin du 19e siècle. Un cafcons, les cafés-concerts aussi, font partie de cette culture nocturne. On y donne des tours de chant et c'est Paulus qui sera le grand chanteur de la belle époque, qui va être l'un des principaux propriétaires du Bataclan et y faire produire tous ses amis, que ce soit Fraxon, Dranem, même Maurice Chevalier, il va y faire ses premières armes au Bataclan.
Nous évoquions les mutations de la géographie nocturne de Paris. C'est le temps du triomphe de Montmartre avec... naturellement, Aristide Bruand et d'autres, c'est la butte des plaisirs à ce moment-là, comme on dit Montmartre. Et Léon-Paul Fargue, le fameux piéton de Paris, Léon-Paul Fargue qui écrit « J'ai trouvé pourquoi les Français ne voyageaient pas, ils ont Montmartre ».
C'est vrai que la nuit est parcourue par des piétons, des flâneurs qui sont aussi des écrivains. C'est une nuit qui se vit, qui se fête, qui est dans l'excès, dans le divertissement, mais qui est aussi dans l'écriture. On a de cette nuit parisienne une sorte de chronique qui est perpétuellement relancée, toujours très curieuse, toujours très flâneuse, une sorte d'errance comme ça à travers tous les grands lieux de la nuit qui sont informés, renseignés par ces écrivains de la nuit. Ça commence, si vous voulez, à Louis-Sébastien Mercier, Rétif de la Bretonne, et ça va jusqu'à Alain Pacadis, jusqu'à Frédéric Beck BD, en passant par Aragon, les surréalistes. On est vraiment dans un genre littéraire et c'est sans doute cela qui, moi, m'a amené presque à considérer qu'il y avait là un véritable sujet qui est à la fois un sujet littéraire et un sujet historique. Voilà, comment est-ce que la nuit va être révélatrice d'une civilisation qui est la civilisation parisienne?
Et ensuite, après la guerre, nouvelle mutation, c'est Montparnasse qui devient un lieu plus étroit en même temps, de 3 hectomètres sur 1 hectomètre. C'est très petit et dont on a évidemment une trace grâce à Jean-Marie Drault qui vient de disparaître et qui avait filmé pour notre bonheur beaucoup des témoins de cette époque. Et c'est Max Jacob, Picasso, Modigliani, Van Dongen, Soutine, Chagall, Brancusi. Et puis du côté des lettres, Paul Fort, Apollinaire, Sandrard, n'en jetez plus.
La géographie des nuits parisiennes évolue avec la Première Guerre mondiale, qui consacre, puisque Montparnasse était déjà un lieu nocturne, mais devient vraiment le cœur de la nuit sur un endroit, un espace très réduit. Et c'est une nuit qui est en même temps très différente de la précédente, hein, de la Nuit Belle Époque. La Nuit Belle Époque mobilisait des classes sociales extrêmement diverses, mobilisait massivement les foules très populaires qu'elle mêlait à l'aristocratie. La nuit de Montparnasse est une nuit beaucoup plus resserrée, c'est une nuit plus élitiste à la fois et aussi plus artiste. Hein. C'est la nuit des peintres, des écrivains, c'est la nuit aussi qui va vivre selon une forme presque beaucoup plus radicale, presque expérimentale, hein, sont ces excès de la nuit. C'est la nuit où tout est possible, aussi bien dans les substances que l'on ingère, dans les...
Plus de drogue qu'avant.
On est là devant une forme de libération presque des mœurs qui permet à des figures jusqu'alors absolument proscrites ou taboues presque d'apparaître. Hein. Par exemple, la garçonne, hein, qui est cette femme qui s'habille de façon si particulière, qui s'habille en garçon qui revendique son homosexualité aussi.
Victor Marguerite, 750 000 exemplaires, le premier grand best-seller de l'entre-deux-guerres après Radiguet.
Le roman de Victor Marguerite consacre, en la caricaturant aussi, il ne faut pas se leurrer, la figure modèle de la garçonne.
Dans l'ambiance nouvelle du jazz.
L'ambiance nouvelle du jazz, l'ambiance nouvelle aussi des boîtes de nuit, l'ambiance du bal nègre. Hein. C'est aussi le grand moment d'une fête beaucoup plus mélangée, d'une fête où les artistes noirs américains viennent de plus en plus nombreux à Paris.
Nouveau par rapport à la période du 19e siècle que nous considérions précédemment, c'est-à-dire le grand nombre d'étrangers qui viennent concentrer leurs talents à Paris, pour qui Paris est une fête. On pourrait prendre le titre d'un livre d'Hemingway qui est plus tardif, mais tous les noms que j'ai cités, des artistes, la plupart viennent d'en dehors des frontières. Ouverture, ouverture, ouverture.
Jusqu'alors, Paris était plutôt un lieu de visite des étrangers. Ce tourisme international qui avait organisé, par exemple, la tournée des Grands Ducs, où on venait s'encanailler en allant visiter les Bouges et les Tripots des Apaches.
Le Brésilien et le Suédois de la vie parisienne d'Offenbach.
Par exemple, la nuit 1920 accueille les étrangers comme acteurs de la nuit. Et à partir de ce moment-là, cette nuit se colore non seulement dans ceux qui en profitent, dans ceux qui la vivent, mais également dans ceux qui la créent. Et ça, c'est quelque chose de très important qui va donner cette coloration si particulière et si cosmopolite aux nuits parisiennes qui en font un espace absolument unique au monde. Hein. Et cette coloration se prolonge comme ça tout au long des années 30 et jusqu'à la période de l'occupation, hein, qui est un moment, la nuit sous l'occupation, c'est à la fois presque une forme d'apogée de la nuit, et c'est aussi une nuit qui est extrêmement mêlée, hein, qui n'est pas celle qu'on pourrait attendre.
Hein. On a republié récemment le magazine bimensuel qui a commencé de paraître dès le 15 juillet 1940 à destination des troupes d'occupation. Wohin in Paris, c'est-à-dire que faire à Paris, et au fond, ce guide témoigne d'une exceptionnelle adaptation de Paris, de ses plaisirs nocturnes et d'un certain nombre de ses vedettes aux événements de l'histoire. Il y a un grand nom qui est une exception, c'est Joséphine Baker, qui a beaucoup incarné ces années 20 et qui, elle, entre dans la résistance et refuse de se produire devant des Allemands. Mais enfin, ceux qui ont refusé ça, il y en avait, comme dit la chanson, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, presque pas du tout.
La nuit parisienne est une sorte de trophée de guerre pour les Allemands. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivent à Paris avec cette idée qu'ils ont conquis aussi les plaisirs, hein, et qu'il va falloir en profiter. Les autorités allemandes organisent non pas du tout le pillage de Paris, mais au contraire, une sorte de renaissance très rapide, hein, de la vie parisienne, de la vie nocturne parisienne, dont vont pouvoir profiter les troupes d'occupation allemandes. Donc, presque la moitié des bordels parisiens, par exemple, soit réservés aux soldats allemands, soit peuvent être parfois mixte, mais
non, ils n'étaient pas mixtes, parce que dans la fameuse série qui s'appelle Un village français, ouais. Jean-Pierre Azéma, qui est le conseiller historique, a beaucoup insisté pour qu'on ne fasse pas l'erreur de croire qu'il y avait un seul bordel dans la ville en question pour les Allemands et les Français. Ils étaient strictement séparés. Naturellement, il a imposé cette vérité historique. Mais maintenant, je voudrais que nous terminions notre conversation, Antoine de Bec, sur la vie nocturne de Paris pendant deux siècles, en évoquant un dernier lieu qui est Saint-Germain-des-Prés. Bien sûr, qui devient, dès avant d'ailleurs la libération, on le voit bien dans les souvenirs de Simone de Beauvoir, ses souvenirs du Flore, la force de l'âge. C'est un lieu qui, dès avant la libération, mais plus largement après, devient symbolique d'une fête nouvelle, avec notamment le nom de Juliette Gréco, à qui on est content de rendre hommage, qui s'exprime ici le 16 octobre 1954. Interrogée par Luc Bérimont. Elle raconte les débuts du tabou, illustrissime cave où se concentrent les bonheurs du temps du côté de Saint-Germain-des-Prés. Écoutons Juliette Gréco.
Mais comment ? Parce que le fait est là, n'est-ce pas ? Vous êtes devenue la reine, on a dit la muse de Saint-Germain-des-Prés. Comment êtes-vous devenue cette muse ?
En laissant tomber mon manteau dans un escalier.
C'est très étrange.
C'est comme ça, pourtant. On avait découvert un endroit. Et on s'était ce groupe de gens qui s'aimaient énormément et qui avaient envie d'échanger des mots, librement, tranquillement. Et un beau jour, il était très tard, il était 4 heures du matin, et on avait très très faim, et très soif, et très envie d'avoir chaud. Alors on était tous très pauvres, bien sûr, et on a découvert un endroit qui était le tabou, qui était juste à côté des messageries Hachette, où les gars des messageries Hachette buvaient du café bien chaud, mangeaient des croissants, et le tout sans être obligés de donner ces affreuses choses qui s'appelaient des tickets. Alors, nous étions là, nous sommes entrés, nous avons trouvé cet endroit brûlant, plein de fumée, merveilleux. Et sur ce, très gaiement, j'ai enlevé mon manteau, je l'ai mis dans un escalier, sur la rambarde de l'escalier, et le manteau est tombé. Et pour aller chercher mon manteau, j'ai descendu l'escalier. Et puis, curieuse, je me suis rendu compte que l'escalier ne s'arrêtait pas là et qu'il faisait très noir au bout. Alors je suis descendue, puis j'ai été fouinée. Et c'était le tabou. Un long couloir humide, avec une porte grillée au fond, et presque la sensation que la scène était là, enfin, tellement c'était humide, une champignonnière.
Et alors, vous êtes entrée dans cette salle du tabou ?
Je suis entrée, et puis j'ai commencé à hurler, « Où est-ce que sont les lumières ? Qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Parce qu'en plus j'avais un caractère abominable. Alors, vite effrayée, on allumait les lumières et je me suis aperçue qu'il y avait des masques nègres pendus au mur avec des petites lumières rouges dedans, un bar, et ça m'a semblé être vraiment absolument le paradis. Immédiatement, j'ai imaginé Boris, Vian, soufflant dans sa trompinette, et tous les gens qui y ont été après. Et nous sommes descendus et nous avons établi notre quartier général dans cet endroit qui, au bout d'une semaine, personne ne saura jamais comment ni pourquoi, a été absolument envahi par des milliers de Parisiens qui faisaient la queue dans la rue Dauphine pour venir regarder les personnages que nous étions. Nous étions simplement des enfants perdus, pas autre chose.
L'évocation par Juliette Gréco de cette champignonnière devenue historique du point de vue du sujet qui nous occupe, les nuits parisiennes, ça sonne très juste, non ?
C'est un très très beau témoignage sur l'invention d'un lieu très rapidement mythique. Juliette Gréco parle du fait que la semaine d'après, déjà des centaines de noctambules s'y précipitaient. C'est quelque chose qui définit tout à fait le phénomène Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre.
Avec l'existentialisme de Sartre et Beauvoir, etc.
Ouais, le passage de l'existentialisme depuis les écrits de Sartre et vers les caves, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué, qui a été en quelque sorte diffusé très vite par la presse, hein, cette idée d'une nouvelle population troglodyte du quartier qui animait comme ça les caves qui vont s'ouvrir de plus en plus nombreuses dans ce tout petit périmètre de Saint-Germain-des-Prés qui vont attirer, là encore, s'attirer une réputation mondiale extrêmement rapidement. On peut dire que Saint-Germain-des-Prés a été comme mythes noctambules, notamment par les Américains, qui vont y consacrer énormément d'articles, qui vont y venir, qui vont faire vraiment la réputation des lieux. Donc on est là devant une, et ça aussi Juliette Gréco le dit très bien, cette génération de, parle des enfants perdus, de cette jeunesse qui se retrouve à la fin de l'occupation et dans l'immédiate libération pour à la fois refaire le monde. On est dans cette ambiance-là, et Simone de Beauvoir le décrit très bien à travers ce qu'elle dit des fiestas, et en même temps pour s'amuser, pour enfin passer à autre chose. Il y a là l'invention d'une nuit en quelques jours, en quelques semaines, et qui est portée par ce groupe, ces bandes de jeunes gens. Et la nuit va être colorée de cette couleur-là, va devenir un phénomène générationnel tout au long des années 60 et 70. Hein. C'est vraiment la nuit de la jeunesse. C'est un espace qui est devenu très spécifique à la jeunesse, avec l'invention d'une culture jeune, des signes de reconnaissance, des rites de danse très particuliers, des chansons, tout un répertoire de musique.
Avec la préparation de mai 68, montrez bien dans votre ouvrage, Antoine Debecq, qu'après 68, dans les années 70 et au début des années 80, avec le palace par exemple, ou les bains-douches, où tout est démesuré, il y a une sorte, je vous cite, d'accomplissement libertaire et de mort politique de mai 68.
C'est un moment festif très particulier, ces années 70, qui à la fois résulte d'une ouverture qui s'est passée en 68, hein, d'une forme de libéralisation, d'un tout est possible, et en même temps qui vont orienter ce tout est possible vers le pur divertissement, c'est-à-dire l'oubli de la cause politique, de l'engagement politique aussi, qui est consacré par l'ouverture du Palace, par exemple, en 1978, hein, qui va être ce lieu phare de la nuit parisienne, qui est à la fois un lieu de rassemblement, où la jeunesse parisienne se retrouve, et elle est à ce moment-là extrêmement diverse finalement, et en même temps qui est un lieu où on va s'amuser pour oublier l'engagement qui a été celui de la décennie précédente. C'est aussi cet espace qui signe peut-être la fin de la nuit parisienne.
Est-ce que vous n'êtes pas tenté, comme tout auteur d'un livre, de dire que tout est clos à la fin et que ça s'arrête? Évidemment, il y a l'institutionnalisation de la nuit blanche à partir de 2002, qui peut apparaître comme un retour du désir de gouverner les choses. Vraiment, fin de la nuit parisienne?
La fin de la nuit parisienne, c'est un thème récurrent, de toute façon, de l'histoire de la nuit parisienne. Chaque époque croyait vivre la fin de la nuit parisienne.
Je ne vous fais pas dire, c'est comme le déclin de la France.
Exactement. On est devant d'antiennes, de nos nostalgie aussi de quelque chose qui a disparu, qui serait mieux avant. Et la nuit fait partie de ce discours-là.
Eh bien, méfions-nous alors de ce discours-là, si vous le voulez bien, Antoine Debecq. Merci beaucoup pour votre présence à ce micro. Votre livre s'appelle « Les nuits parisiennes, 18e-21e siècle », qui vient de paraître au Seuil, et dont je rappelle qu'il est extrêmement bien illustré. Vous avez aussi consacré des travaux importants à la Nouvelle Vague, avec des biographies de ces figures majeures, de Godard par exemple. Le livre s'appelle « La Nouvelle Vague, portrait d'une jeunesse » paru chez Flammarion en 2008. On trouvera naturellement d'autres de vos livres sur notre site comme d'habitude. Hommage soit rendu aussi au livre de Simone Delattre qui s'appelle, je l'avais reçu naguère, qui s'appelle « Les 12 heures noires, la nuit à Paris au 19e siècle » paru chez Albin Michel dans la collection « L'évolution de l'humanité » en 2000. Vous pourrez trouver, vous le savez, les références des documents sonores que nous avons utilisés et vous pourrez également écouter, réécouter et télécharger cette émission pour en agrémenter vos nuits futures. Samedi prochain, nous parlerons, toujours dans l'esprit de Noël, des ripailles du grand siècle avec Florent Quélier.
Et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment, commencer par voir si l'amour.
C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée en alternance avec autant d'ardeur que d'efficacité par Jeanne Guérou et Nathalie Lempereur. Une émission réalisée par Patrick Moulinier, comme chaque semaine, avec Élise Leu à la prise de son, Nathalie Roubilin à la discothèque et, pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Nathalie Durand.
Des soirées brésiliennes et t'emmener au saluer bas, chanter des chansons, chanter tout bas notre amour pour les quatre saisons. Commencez par voir si c'est pour aujourd'hui ou bien tout ça, si c'est pas...
Dans quelques instants, vous allez retrouver Christine O'Krent pour Affaires étrangères.
voudrais savoir. Oh, ce soir, et je vis toujours des soirées parisiennes. Et je voudrais vivre des soirées brésiliennes. Mais moi, je vis tout sur des soirées parisiennes.